Ça devrait être la fin de la cacophonie, puisque c'est très directement lié à la création de ce poste de haut représentant de l'Union pour les affaires extérieures et la politique étrangère et de sécurité commune, et que c'est donc l'administration qui devrait accompagner le haut représentant et qui devrait fédérer à la fois les services de la Commission européenne, les services du Conseil, les services du haut représentant, des délégations nationales sous un seul chapeau. Maintenant, il y a eu beaucoup de débats, y compris au Parlement européen, sur l'architecture de ce service, ses relations avec la Commission, et donc il faudra vraiment attendre l'architecture définitive pour voir s'il pourra effectivement mettre fin à la cacophonie ou s'il se bornera à être un échelon supplémentaire quelque peu inutile. Le but, incontestablement, en créant ce service d'action extérieure, était de mieux coordonner les différents efforts et donc d'éviter la cacophonie.
Quels seront les attributs du futur président du Conseil européen?
Un, de préparer et exécuter les réunions du Conseil européen, mais il faut savoir que, a priori, le traité prévoit 4 réunions du Conseil européen par an, d'œuvrer pour assurer la cohésion du Conseil européen, des travaux du Conseil européen, et donc de trouver des compromis lors des réunions du Conseil européen. Donc les conseils européens ne seront plus présidés par les présidentes tournantes comme maintenant, et ce sera au président du Conseil européen de proposer les solutions de compromis, et puis effectivement, explicitement, de représenter à son niveau, en sa qualité et sans préjudice du rôle du haut représentant, l'Union sur la scène internationale. C'est vrai qu'on peut se dire que les deux premières missions à elles toutes seules n'ont pas de quoi occuper l'agenda temps plein d'une personne qui va être exclusivement dédicacée à cette fonction et que donc elle aura inévitablement un rôle important à jouer sur la scène internationale.
Ne va-t-il pas y avoir double emploi ou rivalité entre le futur président du Conseil européen et le haut représentant?
Étant donné que tant le président du Conseil européen que le haut représentant de l'Union européenne sont habilités à représenter l'Union européenne au niveau international, il risque là évidemment d'y avoir des conflits ou alors des overlappings, pour utiliser un franglais, entre les compétences de l'un et de l'autre. Ça a été une question qui a été posée dès le traité constitutionnel. Est-ce que l'un va être un peu plus protocolaire et l'autre plus opérationnel, ou bien est-ce que l'un va être le véritable leader, à savoir le président du Conseil européen, et l'autre l'exécutant? Ça dépendra très très fort également des différentes personnalités qu'on va nommer à ces deux postes. Et ce qu'on peut regretter, c'est que ce sont des questions qu'on se pose depuis le traité constitutionnel, donc depuis 2004, et que, à titre personnel, je regrette vraiment qu'on n'ait pas mis ces 5 années à profit pour un peu mieux baliser les responsabilités respectives. L'idée étant qu'il ne fallait pas trop donner d'éléments concrets de peur que quelque chose dans la définition des rôles respectifs puisse effrayer les Irlandais, et puis après que d'avoir peut-être trop de responsabilités de l'un ou de l'autre pourrait encore donner du grain à moudre au président tchèque, etc. Mais maintenant, surtout c'est un peu dommage qu'on ait l'impression qu'on n'ait rien fait.
Maintenant que l'Europe est relancée avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, quels sont les chantiers qui sont devant elle?
C'est le changement climatique, c'est la stratégie de Lisbonne, c'est la lutte contre la crise financière. Il y a les conséquences à tirer en termes de gouvernance globale de la crise économique et financière. Il y a toujours les liens avec la Méditerranée qui sont aussi mis en avant par la future présidence espagnole. Donc ce sont là les grands chantiers qui attendent l'Union européenne dans les 2 années à venir.